Vous écoutez
RMC.
On part tout de suite au Parc OL. Le coup d'envoi va être donné. Jérémy, tu l'as dit, beaucoup d'émotions. La famille de Brian Bergugnot a donné le coup d'envoi fictif et les supporters qui n'ont absolument pas oublié l'un des leurs, évidemment, avec notamment une très belle banderole en hommage à Brian Bergugnot.
Exactement, le coup d'envoi a été donné il y a une quinzaine de secondes maintenant. L'arbitre de la rencontre, c'est François Le Texier. Le bel hommage du virage nord, les Bad Guns qui ont déployé cette banderole pour Brian Bergugnot, né formé à Lyon, évidemment, qui a joué pendant des années ici, qui a régalé du côté de Gerland notamment. Et puis le virage sud, on a rendu hommage à une autre figure, une légende de l'Olympique Lyonnais, Fleury Dinalo, qui est également décédé ces derniers mois. Le premier ballon dans les pieds de Lionel Empassi, le gardien, le nouveau numéro 1 du HAC désormais. Dans les buts normands, long dégagement après un hors-jeu côté lyonnais. Les premiers duels au milieu du terrain, 0-0 évidemment, après 50 secondes de jeu entre Lyon et Le Havre au Groupama Stadium.
C'est parti également à Francis Leblé. On rappelle que Brest affronte Toulouse. Xavier Grimaud.
Oui, c'est parti depuis une minute, tout juste, 0-0 entre Brest et Toulouse. Le coup d'envoi donné par les Brestois dans un stade Francis Leblé, donc qui va se tonner un petit peu creux si vous entendez de l'ambiance. Ce sont les supporters toulousains. Ils sont quand même une bonne, allez, je vais les compter vite fait, 60, 70, allez, peut-être une petite centaine à avoir fait le déplacement, et ce sont eux qui mettent l'ambiance. Les ultras reviendront lors de la réception du PSG. Le ballon dans les pieds toulousains avec cette équipe de Brest qu'on va suivre de près, évidemment, qui va essayer de gagner son premier match après avoir été frustré lors du déplacement au stade Marie-Marvin du Mans, puisque se sont fait égaliser 2-2 alors qu'ils avaient fait plutôt une bonne rencontre. Deux minutes de jeu, 0-0 entre Brest et Toulouse. Attention, le premier ballon en profondeur vers Romain Del Castillo. Est-ce qu'il va se faire passer, est-ce qu'il va passer devant Christ Tapé? Oh, le petit geste technique, c'est bien fait Del Castillo, tiré par le maillot, il réclame une faute, mais il n'y aura rien, les Toulousains vont pouvoir se dégager. 0-0, deux minutes.
Nous allons aller au Moustoir, Lorient face à 3, David Filippo, c'est parti également.
Effectivement, c'est parti de après bientôt deux minutes, hein, ici au Moustoir, quasiment 13 000 personnes, une belle affluence, quoi qu'il y a 30, on peut les compter aussi sur les doigts de la main, non, un petit peu plus quand même, il y a une trentaine de Troyens qui sont présents, supporters Troyens, pour encourager leur équipe. 0-0, un premier corner hein, tout à l'heure pour Lorient après une minute de jeu, mais il n'a absolument rien donné. On espère avoir des buts, on l'a dit hein, ces deux équipes ont fait 0-0 lors de la première journée. 3 recevait le PFC, 0-0, et Lorient est à Nice, 0-0.
Tu
et là, c'est
rêver.
Effectivement ce score. Ouais, ouais. Mais c'est le score après 3 minutes de jeu.
Nous allons partir à la Baie des Champs, Fred Joly, Auxerre-Angers. Alors, il y a eu des buts hein, pour les deux premiers matchs d'Auxerre et d'Angers. Malheureusement, ils ont été battus, mais au moins, il y avait du spectacle.
Oui, 5-2 pour Auxerre, 2-0 pour Angers face à Lille, 5-2 à Lens, avec cette histoire de pénalty imaginaire, bien orchestrée par le joueur lensois qui a tenu la main de Piedfort, hein, qui est belge d'ailleurs, qui n'est pas suisse mais qui est belge, et la main et le pénalty, ça n'a pas été checké, enfin bon, bref, en tous les cas, le résultat est que les Auxerrois ont perdu 5-2, les excuses c'est bien mais ça ne change pas le résultat, et le score est de 0-0 à la Baie des Champs après 3 minutes et 20 secondes de jeu. Pour l'instant, match équilibré, c'est gentil, et on se cherche, on s'observe, mais ce sont, on peut le dire, les Angevins qui pour l'instant ont tendance à avoir mis le pied un petit peu plus sur le ballon par rapport aux Auxerrois. 0-0, 3:30 de jeu à la Baie des Champs.
On est du côté de Guingamp avec Pierre-Yves Leroux, c'est la mi-temps entre Guingamp et Nantes, et on se dit tous, mais qu'est-ce que Poirier est venu faire dans cette galère, Pierre-Yves?
Ben oui, c'est sûr, à chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur à Nantes, on se dit mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère?
Mais surtout qu'il est resté sur un beau travail avec le Red Star.
Ben oui, mais bon, voilà, il y a un moment il avait envie de travailler, je pense, et il y a eu cette opportunité. C'est une drôle de mission et elle n'est pas bien engagée, puisqu'à la pause ici à Guingamp, c'est Guingamp qui mène grâce à Gomis et Samir Ben Brahim, 2-1, puisque Younoussa a réussi à réduire l'écart à la 22e minute.
Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux. On rappelle donc que c'est la quatrième journée.
Oh, le but! Le but en juin! Oh, la frappe, elle est superbe! Elle est superbe cette frappe!
Fred Joly.
Oh, il l'a pris comme elle est arrivée, Van Den Boomen. Frappe extérieure du pied, me semble-t-il, 2. Il a laissé rebondir le ballon. Il est à 25 mètres. Badaboum, c'est à mi-hauteur. Diop se détend, mais est surpris par la force de cette frappe. Et il ne peut que constater les dégâts. Et Angers, après 5 minutes de jeu, prend l'avantage et mène 1-0 ici face à la JOCR. Elle est belle. Boum! T'as vu, Maxime? sublime, elle est belle celle-là.
Ah ouais, ça crée but. Hein. Ah ouais, parfois, tu sais, il faut juste s'incliner. Hein. Là, je voyais Kevin Danois qui était en train de rappeler à l'ordre pied fort en lui disant qu'il était mal positionné. Mais là, il faut être très honnête.
Tu peux rien faire.
La frappe est superbe. Tu peux peut-être blâmer le gardien de but. Oui, c'est vrai, il est caché. Il a quand même pas mal de défenseurs derrière lui. Mais devant lui, pardon. Mais après, il y a une réalité. Van den Boomen, il a un pied exceptionnel. Là, le ballon lui arrive à quoi? À l'entrée de la surface. Il est quoi? À 25 mètres? Il se pose pas de questions.
Il est à 25 mètres. Hein,
ouais, 25 mètres. Ouais, il est quoi?
Il est pas à 18 mètres. Hein, il est
ouais, presque 10 mètres derrière l'entrée de la surface de réparation. Il se pose pas la question. Le ballon rebondit en espèce de demi-volée. Voilà. Et ça finit dans le petit filet du gardien auxerrois. Ça, c'est un but de grande classe.
Hein. Sublime but et le premier but de la saison du SCO en Ligue 1. Et ça part très fort, messieurs. J'adore ça. Ce genre de multiplex, 3 minutes, déjà un but. Donc,
quel but.
C'est de bonne augure. Et quel but, effectivement, tu as raison de le dire, Maxime. C'est une merveille. On retourne à Lyon. Jérémy Donzé, dis-nous tout. Comment les Lyonnais se comportent après 6 minutes de jeu face au Havre?
Ils essayent de garder le ballon, en tout cas de repartir derrière, à l'image de ce renversement là de Moussa Niakate pour Félix Bar, le défenseur autrichien titularisé donc en l'absence de Ruben Kleivert, laissé au repos pour la fin du mercato. On a vu une belle ouverture,
la parade de Lopez. Oh, l'occasion serroise. Oh, il y a du spectacle. Van den Boomen a donné le ton, les Auxerrois réagissent parfaitement avec cette contre-attaque, ce ballon décalé sur le côté, me semble-t-il, vers Labo Lascari. Il frappe, la main gauche ferme de Lopez qui contre le ballon, qui rebondit et qui passe au-dessus de la barre transversale. Ça sentait l'égalisation. Un petit peu de réussite du côté du gardien Angevin. 1-0 pour Angers après 6 minutes 30 de jeu.
On vit le corner.
Allez,
avec toi.
Le corner. Avec pied fort pour jouer ce corner. Il faut mettre le ballon. Là. On était venu donner du soutien, mais il n'en veut pas. Hein. Pied fort, je pense qu'il va vouloir mettre cette balle dans la surface de réparation. Enfin, qui se décide quand même. Voilà, il demande à ses coéquipiers de bouger, de mettre du mouvement dans cette surface de réparation. Finalement, il ajoute tout de même en deux temps. Oh là là, c'est mal tiré ça. Ça mène à rien ces corners là. Voilà, ça va donner quoi? Allez, boum, une tête Angevin pour deux. Ah, c'est mal tiré.
Il a tergiversé.
Ouais, il faut la mettre dans le paquet. Qu'est-ce qu'ils nous font, des combinaisons?
Ces coups de pied arrêtés à deux, ça fonctionne très rarement, et encore plus dans notre Ligue 1, en effet. Alors que je reviens très rapidement sur l'action précédente avec le très bel arrêt d'Anthony Lopez. Bon, il y a un alignement de la défense Angevine un petit peu douteux, hein. On va pas se cacher, avec un Lefort qui avait oublié de couvrir Ousmane Camara qui a été sorti sur l'attaquant. Mais en tout cas, Anthony Lopez a été recruté aussi pour ça, du côté d'Angers, pour son expérience, et puis aussi voilà, pour ses arrêts déterminants. Il l'avait montré l'année dernière au FC Nantes, malgré la descente, c'était peut-être le meilleur Nantais. En tout cas, il permet à Angers de garder leur avance à but à zéro contre cette équipe d'Auxerre.
Effectivement, très belle intervention de Anthony Lopez. On rappelle que le premier but a été marqué par le SCO, et c'est Angers qui mène 1-0 sur la pelouse d'Auxerre. On retourne au Parc OL. On était avec toi, Jérémy Donzé, et effectivement, je t'ai interrogé sur les Lyonnais. Est-ce qu'ils ont digéré la désillusion de mercredi? Plutôt oui.
Oui, plutôt oui pour l'instant. Ils veulent ressortir propre, mais attention à pas se faire piéger. On a eu Tyler Morton il y a quelques instants perdre un ballon dans sa moitié de terrain, et ça a donné tout de suite une occasion pour Ali Samata qui a été contré. Le premier corner de la partie pour les Havrais qui n'a rien donné. Et là, il y aura un corner à suivre cette fois pour les Lyonnais, soutenu par, on le disait, 38 000 spectateurs environ annoncés ce soir au Groupama Stadium.
La but toulousain, Yann Bo qui les voit ce but avec un super ballon en profondeur. Ah non, c'est Rossellereau. C'est Rossellereau qui met ce but. Il a la même coiffure que Yann Bo, et le Canadien qui termine parfaitement bien du droit. Une frappe imparable pour Egil Selvik, le gardien norvégien arrivé au mercato. Là, franchement, il n'est pas fautif, le gardien. C'est surtout la défense qui se fait avoir, Maxime, avec cette passe qui est superbe. Et un contrôle, une frappe avec de la puissance. Très joli but de la part des Toulousains.
Ouais, relance manquée de l'axe droit de la défense brestoise. Et derrière, ça va très très vite. Hein. Une touche de balle. Le joueur, c'est beau, hein, oui, me semble-t-il, hein, qui sert Rossellereau.
Ah, c'est beau à la passe, ouais. Voilà, beau à la passe, et Rossellereau à la finition.
Voilà, qui se pose pas de questions, qui se retourne et qui vient ajuster le gardien de Brest. On l'a connu un peu plus maladroit devant les buts, hein, l'année c'est dernière. Rossellereau, hein, la recrue qui est arrivée en cours de saison, rappelez-vous. Et là, c'est vrai qu'il débute ce match et la saison de la meilleure des manières. C'est un bon joueur, hein. Moi, je l'ai connu du côté de la MLS. Il faut aussi qu'il arrive à s'adapter à la Ligue 1, qui est un championnat différent. En tout cas, il nous a montré, là, ce soir, là, en tout cas, sur cette action, qu'il est en mesure de pouvoir être précieux pour le Toulouse FC.
Ça part très, très bien, ce multiplex de la deuxième journée de Ligue 1. On fait le tour des stades. Le temps, le score. On commence. On est à Lyon avec Jérémy Donzé.
10 minutes de jeu ici au Groupama Stadium, et toujours 0-0 entre Lyon et Le Havre.
On est à Lorient, David Filippo.
10 minutes, 0-0.
Entre Lorient et Troyes, Xavier Grimaud, Brest-Toulouse.
La dixième, 1-0 donc pour Toulouse, le but de Rostelleroi.
Et Fred Joly, on est à la baie des champs avec toi.
Angers mène 1-0, but inscrit par Vandenboomen à la cinquième.
Ce multiplex est très très bien parti, on a vécu déjà deux buts et deux très jolis buts. Vous êtes sur RMC, ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du multiplex, à tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. 20h57, vous êtes sur RMC, on est en direct du studio Roland Courbis avec Maxime Chano, le multiplex de la deuxième journée de Ligue 1 avec déjà deux buts, et notamment il y a eu un but, on le rappelle, pour le score Angers 1-0, mais Auxerre a eu une très grosse occasion, Fred Joly.
Ah, les Auxerrois, là, ils se sont vraiment réveillés. Hein. Ils ont été surpris par ce magnifique but de Vandenboomen. Et puis, depuis ce but.
Openda, la parade de Lionel Mpassi. On en reste à 0-0 entre Lionel. Le petit ballon, Tolisso. Oh, c'est au-dessus, l'énorme raté du capitaine Lionel sur cette petite passe d'Ernest Nouama. Énorme occasion pour les Lyonnais. Toujours 0-0 après 13 minutes de jeu. Corentin Tolisso qui frappe de rage et de sa main la pelouse du Groupama Stadium. Il a voulu reprendre ce ballon de volée sur un service d'Ernest Nouama. Il y avait une grosse récupération, un gros pressing de Mats Bidstrup. Loïs Openda dans la surface de réparation, il est trop gentil, l'attaquant belge de l'Olympique Lyonnais devant, Lionel Mpassi qui se couche bien, et derrière Ernest Nouama qui se remet sur son pied gauche, le petit centre pour Corentin Tolisso qui essaye d'équilibrer cette reprise mais qui s'envole dans le ciel du virage sud et ça vient mourir au-dessus du but du Havre. 0-0 donc entre Lyon et le Havre, la première énorme occasion, énorme situation pour les hommes de Paulo Fonseca.
Maxime, il se couche pas assez. C'est Tolisso sur cette reprise du droit.
Oui, il ne se couche pas assez. C'est surtout aussi la passe de Nouama qui est piquée, qui manque peut-être un peu de puissance. Donc Tolisso, tu es obligé d'attendre le ballon et derrière, tu as la défense à Brest qui revient. Donc il n'a pas le choix que d'attendre un petit peu. Et c'est vrai que derrière, bon, l'exécution n'est pas non plus parfaite. Mais en tout cas, il y avait aussi une récupération, hein, tu l'as dit, de Bidstrup qui avait été très intéressant. Hein. Et qu'on aurait voulu peut-être voir titulaire d'ailleurs contre
et attention le rush de Kyle Boulage, c'est le poteau, le centre, il a été dévié sur le poteau, Lionel Mpassi était pris à contre-pied, Ernest Nouama qui récupère ce ballon, ça s'agite enfin côté Lyonnais, Nicolas Tagliafico, le petit centre à ras de terre, c'est repoussé tant bien que mal par la défense havraise. Énorme chaleur de nouveau, ce centre de Kyle Boulage venu du côté gauche, c'est légèrement dévié, ça trompe Lionel Mpassi, ça vient mourir sur la base du poteau havrais. On en reste à 0-0 après 14 minutes de jeu. Ça va enfin lancer le match des Lyonnais qui avaient la possession, plus de 60% dans ce premier quart d'heure, mais qui n'en faisaient pas grand chose et surtout ils se faisaient un petit peu peur avec ils étaient un petit peu en dilettante avec une passe de Moussa Niakate mal ajustée, un dégagement de Dominique Grave contré, une perte de balle, je l'ai commenté tout à l'heure, de Tyler Morton qui avait donné la première occasion, et on revoit le ralenti de Lionel Mpassi. Il est pris à contre-pied sur ce centre dévié de Kyle Boudage, on a l'impression qu'il fait une petite faute de main, mais malgré tout c'est lui qui vient du bout du doigt dévier ce ballon sur son propre poteau. Sinon, s'il ne l'avait pas touché, il y aurait eu but et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Il n'en est rien. Un quart d'heure de jeu, 0-0 et deux énormes occasions pour l'OL.
On se posait la question de l'état mental des Lyonnais à la suite de cette défaite et cette élimination là pour la Champions. Ils viennent de nous montrer sur les deux dernières actions qu'ils sont prêts, voilà, à rebondir. Je voulais te poser la question par rapport au 11 titulaire. Est-ce que finalement le 11 aligné par Fonseca maintenant n'est pas le 11, alors sans Malik Fofana, on le sait en instance de départ, mais pas finalement le 11 le plus fort que l'entraîneur pourrait aligner, notamment en mettant Bidstrup au milieu, Atekame, Barreur. Voilà, ça. Qu'en penses-tu ?
Ça ressemble en tout cas à l'équipe type. La question, par exemple, ça peut être sur le côté gauche. Tagliafico, Abner. Abner, peut-être en instance de départ, il est sur le banc ce soir. Donc là, il y a peut-être débat de ce côté-là. Félix Bernard, titulaire ce soir.
Aussi.
Exactement, parce que Ernest Nouama, sa prestation évidemment de mercredi soir, vous l'avez suivi, elle n'est pas forcément reluisante, toujours un petit peu ce côté très attendu de revenir sur son pied gauche, lui qui évolue sur le côté droit, voilà, il a été un petit peu critiqué pour cela, donc Ernest Nouama à suivre. Kyle Boudache, lui, est sur le côté gauche en remplacement, on le disait, de Malik Fofana en instance de départ. Il y a Pavel Schulz aussi qui est sur le banc, donc à suivre. En fait, il y a trop d'incertitudes d'ici mardi 20h. Si tous les joueurs en instance de départ partent, bah forcément on se rapprochera ce soir de l'équipe type. Mais il y a aussi des compensations, alors qu'on aperçoit Jean-Michel Aulas, président dans les tribunes d'ailleurs du groupe Pama Stadium, sur nos écrans de contrôle, l'ancien président de l'OL. Voilà, on va voir un petit peu ce que les dirigeants et notamment Mathieu Louis-Jean vont pouvoir faire d'ici à mardi soir 20h entre les départs et les éventuelles compensations. Tous les postes ne seront pas compensés évidemment s'il y a des départs, notamment celui le plus lucratif, très certainement celui annoncé de Malik Fofana.
On retourne voir Fred Joly parce que les Auxerrois qui réagissent très bien après avoir concédé l'ouverture du score face à Angers.
Exactement, ils sont menés 1-0 et ils ont eu de belles réactions avec une frappe contrée qui a contraint Lopez. Lopez a fait un dégagement bizarre comme il a pu, le gardien Angevin, et puis cette frappe de Labo Lascaret qui est passée au-dessus du but Angevin, des Auxerrois qui monopolisent quasiment le ballon, quoi qu'il faut se méfier de cette équipe d'Angers qui, dès qu'elle le peut, va de l'avant et cherche à bousculer cette équipe auxerroise, peut-être avec cette balle par-dessus. C'est pour pied fort qui a été mis au sol, ce sera une faute pour les Auxerrois. 18 minutes de jeu et c'est Angers qui mène à la Baie des Champs 1-0.
On va à Brest, il y a un corner.
Ouais, le corner tiré de la gauche vers la droite, repoussé par la défense de Toulouse. C'est un match intéressant pour l'instant, les Bretons qui mettent pas mal de rythme, et Toulouse qui a piqué une fois par une perte de balle et une deuxième fois qui a failli piquer par transition. La demi-volée, le but, oh, il est étonnant ce but, 100% malien, avec Diambiou qui tente une reprise de volée ou une demi-volée, et Kamori Doumbia qui était au sol, qui prolonge le ballon. Il n'est pas en position de hors-jeu, dans une position très étonnante, mais qui va permettre aux Bretons d'égaliser. Je pense pas qu'il y ait hors-jeu, hein. Il a l'air bien couvert, on revoit l'image à l'instant, le ballon qui part de la gauche avec un centre de Bradley Loco, repoussé des deux points par Guillaume Rest, la reprise de volée de Diambiou, et Doumbia qui doit marquer avec une sorte de petit extérieur du pied alors qu'il est quasiment tombé au sol. But il n'est pas tombé au sol complètement. Très joli but de Doumbia.
Superbe.
Belle, ouais, magnifique, Max, une très belle inspiration de Kamori Doumbia. Un, oui, partout.
Et une petite erreur de la défense toulousaine, n'a pas vraiment aligné entre Mackenzie et Nicolaïsen. Ça ne les ressemble pas, hein. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, bien qu'ils ont l'habitude de jouer normalement dans un système à 3. Mais là, en effet, il laisse le joueur brestois absolument seul, dans un alignement, comme je dis encore une fois, mais qui laisse à désirer. C'est bien joué de la part de Brest, hein, qui n'a pas douté longtemps finalement, en égalisant face,
ouais,
à des Toulousains qui, depuis le début de match, ma foi, ont un rapport de force plutôt égalitaire, je trouve, entre ces deux équipes qui ont montré de bonnes, ouais, choses, ouais, sur les 20 premières minutes.
Et très, en tout cas, c'est un bon match, hein. C'est, ouais, un bon match, et c'est quand même mérité pour les Brestois, hein. Je trouve cette égalisation finalement assez rapide. 19 minutes de jeu, un partout entre Brest et Toulouse.
Très joli but de Doumbia. Il y a un mauvais élève dans ce multiplex, on va aller le voir. David Filippo, 0-0, qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, oui, 0-0, mais une grosse occasion à 0. Alors vraiment une énorme occasion. On venait de partir en pub. Le centre de Bernardo, le Lorientais, de la droite. Vous l'avez pas vu? Non, mais vous avez vu les images. Et la reprise de Mamadou Koné sur la barre transversale du gardien troyen, Beach, gardien australien. Il était battu, hein, le gardien de Troyes. Ça fait une grosse occasion. C'est vrai que sinon, il se passe pas énormément de choses ce soir du côté du Moustoir. Après 20 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais grosse occasion, j'en parlais tout à l'heure, hein, de ce Mamadou Koné. Il a fait preuve de beaucoup de spontanéité sur cette reprise de volée, mais il a touché la barre transversale.
Mais les Stags qui nous avaient fait quand même bonne impression, hein, sur leur premier match contre le Paris FC. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas forcément la Ligue 1, avec certains joueurs d'expérience. Je pense à Renaud Ripa ou à Adrien Monfray, qui ont un certain âge et qui vont être importants cette saison pour les Troyens. Et surtout pour contrer un petit peu et compenser la jeunesse qu'il existe dans cet effectif.
Oh, et la tête de Jorgensen là pour Toulouse, après un très très beau mouvement de la part des Toulousains au milieu de terrain. Alexis Vossa pour la montée de taper le centre, de taper la tête de Jorgensen qui arrivait lancé, qui passe juste au-dessus des buts de Selvik. C'est un bon petit match auquel on assiste à Le Blé, un partout, la 21e.
On va aller à Lyon, on le rappelle, les Lyonnais qui ont eu plusieurs très grosses occasions, Jérémy Donzé, mais qui n'ont pas encore ouvert le score.
Non, les occasions d'Openda, de Tolisso, de Kyle Boudache, évidemment, il y a quelques instants. La 21e ici au Groupama Stadium. Et donc, toujours ce score de 0-0. Ce long ballon d'Ahmed Touba, la dernière recrue à Brest. Ce sera un tout petit peu trop long pour le jeune Dibril Ouzia. Il y aura une touche à suivre pour les Lyonnais. Ça a réveillé un petit peu le public. Ça a lancé définitivement cette rencontre, ces différentes occasions côté Lyonnais. On essaye de disséquer aussi le jeu à Brest, le système mis en place par Didier Dicard, cette défense à 5 quand ils n'ont pas le ballon, avec Junior Manga qui redescend d'un cran et qui remonte au milieu de terrain dès que ses coéquipiers récupèrent le ballon. On écarte au maximum sur les côtés avec Timothée Pembélé et Djibril Ouziad pour les défenseurs. Attention à ce ballon côté Abraham, on est dans la surface de réparation. La frappe, elle est légèrement déviée, elle est captée sans problème par Dominique Gray. Il va pouvoir se dégager côté Lyonnais. La 22e, 0-0 entre Lyon et Le Havre.
Ouais, c'est aussi le signe que les Havrais craignent, hein, les Lyonnais, en passant avec cette défense à 5. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir Seco, hein, jouer dans ce poste de défenseur central. On l'a connu l'année dernière un peu plus offensif dans un poste de milieu de terrain où est-ce qu'il avait été très performant. Il avait certes dépanné dans cette défense centrale. Je suis un petit peu perplexe parce que je trouve qu'il manque un peu de taille. C'est vrai qu'avec le ballon, il est intéressant. Donc là, ça va être intéressant aussi de le voir, voilà, face à la vitesse un petit peu lyonnaise, comment il va réagir et notamment les appels en profondeur d'Openda.
Et pour l'instant, tout se passe bien. En tout cas, ils n'ont pas été pris à défaut. Hein. Je parle de la charnière Ayoumou Seko et Ahmed Touba, renforcé, je le disais, par Junior Mwanga à la perte du ballon. Il y a une faute côté lyonnais, un coup franc à suivre dans la moitié de terrain havraise pour les hommes de Didier Digard. 0-0, la 22e.
On tourne, on va à Francis Leblé. On retrouve Xavier Grimaud, un but partout entre le SB 29 et le TFC.
Oui, la 23e, un but partout, l'ouverture du score de Russell Rowe, le Canadien à la 9e, l'égalisation de Doumbia à la 18e pour son deuxième but en deux matchs. Il avait marqué sur la pelouse du Mans, Camori Doumbia, lui qui est le milieu offensif attitré de cette équipe qui n'a pas beaucoup bougé à l'intersaison, puisqu'il y a uniquement sur la pelouse, enfin il y a quelques recrues, mais Gauthier Lloris là qui fait sa première, et Diambou, le joueur de Salzbourg qui fait une passe décisive sur le but de Doumbia, le Malien qui avait joué contre Brest en Ligue des Champions avec Salzbourg, il avait pris 4-0. Il s'en souvient encore et là cette fois il retrouve les Bretons. La 24e, 0-0, 0-0, un partout, mais c'est bien.
Tu veux nous enlever des buts, dis donc.
Désolé, j'ai une petite absence. Un partout, la 24e.
On part en Ligue 2 avec les Canaries qui égalisent face à Guingamp, Pierre-Yves Leroux.
Oui, 50e minute, ils étaient revenus très vite des vestiaires à la pause pour se réinstaller dans une dynamique positive. Les Nantais, ils ont attendu le retour des vestiaires et puis 5 minutes après la reprise, ils égalisent donc à nouveau par Younoussa qui avait déjà réduit l'écart tout à l'heure. Ça part d'une grosse erreur au niveau de la relance, gagne en baisse de la défense, ballon récupéré par les Nantais et deuxième but donc inscrit, Ortola qui ne peut rien faire sur ce coup-là, de partout. Tout est relancé après le 2-0 pour Guingamp au bout d'un quart d'heure. Nous sommes à la 50e, match nul désormais entre les deux équipes.
Et il y a du spectacle donc au Roudourou. On rappelle qu'Annecy et Metz ont fait match nul, un but partout, et Reims a sèchement battu le Red Star 4-1, première défaite de la saison pour le club du Red Star. On va retourner voir Fred Joly entre la GIA et le SCO Angers. Ah non, il y a un mort. Si, et au sol. Tout va bien ?
Rien oui, de grave. Oui. Non, ça va, ouais, c'est pas se relever, il est costaud. La mine, si, c'est un beau bébé qu'il faut bouger. Il a pris une petite semelle, apparemment. Il est au sol. Ça sera sans doute un coup franc à suivre. Mais pour les Anges, je voulais juste vous parler d'une belle action qui a été menée par les Auxerrois et qui sont menés 1-0. Et sur corner, Akpa s'est retrouvé seul avec un coéquipier devant Lopez. Alors, je sais pas si Maxime, tu as eu l'occasion de voir comment tirer les Auxerrois, essayer de tirer les corners. Ils sont pas situés aux 5m50. Ils sont complètement décalé à l'opposé de la surface de réparation, et quand le ballon arrive, ils déboulent tous en même temps pour donner une solution. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, Maxime.
Ça leur permet surtout d'arriver lancé en fait, et d'avoir un peu plus de puissance que lorsque tu restes statique et tu as forcément un peu plus de mal à pouvoir sauter. Voilà, c'est une tactique qui a été travaillée. On verra si ça va porter ses fruits. C'est vrai que les Auxerrois ne sont pas forcément réputés pour être les meilleurs sur coup de pied arrêté, alors que peut-être cette saison, cette tactique fonctionnera, on leur souhaite.
On suit le coup franc avec toi en faveur du SCO.
Ouais, c'est le buteur Van Den Boomen qui va jouer ce coup franc. Le sans doute très fort ballon.
Attention, Ndiaye, il a une énorme occasion devant Dominic Gray. Ça sera un corner à suivre pour les Havrais. On est passé tout près de l'ouverture du score. Le capitaine Havrais venu buter sur le gardien lyonnais après un rush dans la surface de réparation. Il a fait tout le tour de Kyle Boulage pour venir mourir sur Dominic Gray. Toujours 0-0 entre Lyon et le Havre. Corner à suivre pour les Havrais.
Alors, on va suivre avec toi le corner. On rappelle que le coup franc n'a rien donné pour les Angevins. Le corner avec toi, et tu veux revenir sur l'occasion qui a amené le corner, Maxime.
Oui, c'est. J'ai envie de te dire que Rossi Lendai a besoin absolument de personne, et je pense qu'il a pris le meilleur sur Tagliafico pour le coup, mais derrière c'est bien joué de sa part. C'est peut-être le meilleur joueur à vrai, et encore une fois, Digard aura besoin d'avoir Rassoul Ndiaye si le Havre veut se maintenir.
Corner
Varencourt à Lorient, 0-0. Et on va aller revoir les images. L'arbitre va aller revoir les images. Peut-être une main dans la surface de réparation. Lorientais, ça pourrait être un pénalty pour l'Estac. Reprise d'un joueur. Alors, je ne sais pas ce qu'il voit. Est-ce que c'est un Troyen qui reprend le ballon sur un corner Et est-ce qu'il y a faute sur le Troyen lorsqu'il reprend le ballon au premier poteau? C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de voir. C'est si là, je pense qu'il fait peu, mais je vois pas ce qu'il y a en fait. Si vous avez les images,
on aimerait t'aider, mais on voit pas grand chose.
C'est la main droite pour le coup.
C'est une main, hein, c'est une main, peut-être la main droite.
Écoute, c'est un peu difficile à dire, mais en tout cas, l'arbitre tchèque est en train de checker. Pardon, l'arbitre français, pas d'origine tchèque, pardon.
Il y a que des Français qui officient en Ligue 1.
L'arbitre tchèque, entre guillemets, est en train de regarder.
C'est monsieur Souifi, il est en train de.
De la part du défenseur l'orienté.
Ouais.
La décision, là,
qu'il va décider. On va écouter la décision de monsieur Azedine Souifi. Alors, il revient. Voilà, il montre l'écran. Main. Pénalty pour l'Estac, une main du numéro 17 de Lorient. Et c'était Makengo qui avait touché le ballon de la main sur cette reprise d'un Troyen. Et ça sera donc un pénalty pour cette équipe de Troyes, alors que les occasions, elles étaient franchement pour les Lorientais depuis le début de ce match. Depuis donc, on est à 28 minutes. Et ça sera donc un pénalty. Il y avait eu la barre transversale à la 10e de Koné, Mamadou Koné. Quelques minutes après également, Bernardo qui avait trop croisé une frappe alors qu'il était pas loin de du but Troyen. Et ça sera donc, eh bien, c'est Renaud Ripart. On parlait de l'expérience de Renaud Ripart. C'est lui qui va frapper ce pénalty. Il est face à Yvon Mvogo, la 29e ici au Moustoir, et l'Estac qui peut ouvrir le score. Ripart face à Mvogo, tout le monde est à distance réglementaire. Ripart, voilà, qui va frapper ce pénalty. Ce pénalty va pouvoir peut-être ouvrir le score pour l'Estac. Il prend son temps. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Il est derrière sa ligne, Vogo, et il le prend à contre-pied. Ça fait 1-0 pour l'Estac ici au Moustoir. 1-0 après 30 minutes de jeu. Le pénalty de Renaud Ripart.
Premier but de la saison pour le promu qui est signé Ripart, un vieux de la vieille. Hein. On le connaît bien, Ripart. Donc 1-0, contre-pied, parfait. C'est un
seul
hommage à Julien Cazard, bien sûr.
On aura du seul, voilà, il se prend pas la tête. Et on sent l'expérience de Ripart, en effet, qui a pas mal bourlingué dans notre championnat de France. C'était important, tu sais, on a toujours le sentiment que les pénaltys sont faciles à marquer, mais non. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit un peu plus tôt, ça va être un joueur, tout comme Adrien Monfré, le capitaine, qui sera vraiment utile de par son expérience et évidemment ses qualités. En tout cas, l'Estac qui prend l'avantage après leur premier très bon match contre le Paris FC. Ils sont en train de nous montrer qu'ils sont en Ligue 1. Et c'est mérité.
Et oui, le champion de France de Ligue 2, oui.
Après, ils n'avaient pas montré grand-chose, hein, les Troyens. Franchement, ils marquent sur un pénalty. C'est une reprise qui passait largement au-dessus. C'est une main totalement involontaire d'un Lorientais. C'est vrai qu'ils n'avaient pas montré grand-chose. Mais en tout cas, ils mènent 1-0 avec ce pénalty de Renaud Ripart.
Et puis, tu sais, c'est ce genre de match que les Troyens vont devoir gagner. Les matchs à confrontation directe, entre guillemets, contre des équipes qui vont se battre contre la relégation. Parce que même si Lorient a fait une très bonne saison l'année dernière avec Pantaloni, j'ai un doute sur cette saison. Je leur souhaite évidemment qu'ils vivent une saison tranquille. Ça, l'avenir me le dira si oui ou non je me trompe, mais en tout cas pour les Troyens, c'est important de prendre des points contre des concurrents directs.
En tout cas, il y a des buts sur toutes les pelouses et ça nous réjouit avec ce multiplex de la deuxième journée de Ligue 1. On fait le tour des stades, le temps des scores. On est il n'y a pas de but à Lyon, dis donc. J'avais vu des buts, c'est finalement.
Non, il y a des occasions. Bah, c'est lui le mauvais élève du coup.
C'est pas mal. Donc,
exactement.
C'est Jérémy Donzé, le petit.
Mauvais élève.
Oui, le dernier de la classe. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Une demi-heure de jeu au Groupama Stadium, 0-0 entre Lyon et Le Havre. Poteau pour Lyon, une grosse occasion pour Les Havre également, mais toujours pas de but ici.
Début, il y en a à Francis Leblé, Xavier Grimaud.
Oui, on joue la 31e, il y a eu deux buts, un pour chaque équipe. Russell Rowe, le Toulousain, qui ouvre le score à la 9e, Doumbia qui égalise à la 18e.
Le temps, le score, Auxerre Angers, Fred Joly.
Ah, il reste 14 minutes à jouer dans cette première période et c'est Angers qui est devant avec ce but inscrit dès la 5e par Van den Boomen.
Et on va voir les Merlus avec David Fedipo.
La 31e, 1-0 pour l'Estac ici au Moustoir. Le but de Ripart sur pénalty à la 29e.
Pierre-Yves Leroux, on est au Roudourou avec toi entre Guingamp et Nantes.
Et on est à la 58e minute et c'est 2-2 entre les deux équipes. Gomis et Samir Benbrahim pour Guingamp et le doublé de Younoussa pour les Canaries.
Vous êtes sur RMC, on vit le multiplex de la deuxième journée de Ligue 1. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli.
21h17 sur RMC, on vit le multiplex de la deuxième journée de Ligue 1 aux côtés de Maxime Chanon. On vous rappelle qu'un petit peu plus tôt, Strasbourg a renversé les Lensois, succès 2-1 du Racing. Hier, Lille PSG, 2-2. On va aller à Lyon, Lyon-Le Havre. Il n'y a pas de but, mais en tout cas, il y a énormément d'occasions. C'est pour l'instant une demi-heure de jeu très très intéressante. Jérémy Donzé.
Ouais, pour l'instant, c'est très plaisant. 0-0 donc, la 33e est ici à Décines donc. Et cette occasion, il y a quelques instants pour les Havraires, à Solendiaï qui a pris le dessus, Maxime le disait, sur Nicolas Tagliafico, avant de buter sur Dominique Graeff. Et avant cela, c'est les Lyonnais qui ont été frustrés. Ce poteau, notamment, de Kyle Boudache, un centre dévié et mis par avec un petit peu de chance de réussite par Lionel Mpassi sur son propre poteau. Il y avait eu avant ça cette reprise de volée de Corentin Tolisso ou encore la frappe de Loïs Openda. Bref, il y a des actions, il y a du spectacle, mais il y a aussi quelques approximations. On n'a pas retrouvé non plus une équipe lyonnaise flamboyante. Il y a des Havrais aussi, les hommes de Didier Ligard, qui sont très bien en place, Maxime, dans cette partie, qui ne se livrent pas mais qui savent se projeter et qui peuvent piquer à la récupération du ballon.
Exactement, j'étais un peu surpris de les voir avoir même la possession de balle, hein, quand même, qui jouent à l'extérieur face à un gros de notre championnat, l'Olympique Lyonnais. Ils n'ont pas peur, ils sont audacieux, beaucoup d'abnégation. Bon, après, c'est aussi à l'image de leur entraîneur, hein, qui n'a pas peur de jouer. Mais c'est vrai que dans l'utilisation du ballon, ils sont pas ridicules, les Havrais.
Et pour l'instant, donc, ça donne ce score de 0-0. Les Havrais qui ont attaqué, on le rappelle, la saison par une défaite 1-0 face à Monaco, notamment ce but refusé pour quelques petits centimètres pour Amir Richardson, qui est de nouveau titulaire, évidemment, au milieu de terrain du côté du Havre.
Bonjour, et Rasoul Ndiaye, tu en numéro 7, hein.
Exactement, qui fait son retour, lui qui est prêté par la
Fiorentina. L'égalisation serroise, un exemple de contre-attaque. La relance de Diop sur le côté droit, le ballon dans la profondeur. Il y a un relais au serrois et puis la Bolasca qui récupère ce ballon complètement à gauche. Il repique sur son pied droit, il frappe. Lopez touche le ballon, effleure le ballon, mais ne peut empêcher cette balle de rentrer dans le but angevin. Et après 35 minutes de jeu, Auxerre revient à la hauteur d'Angers, un partout entre Auxerre et Angers.
Ah, ça va très très vite, hein. Encore deux touches de balle, l'arrière droit qui arrive à se mettre dans le sens du jeu, et derrière, voilà, c'est directement orienté sur le côté gauche. Et il me semble que c'est la Bolascari, c'est ça, j'arrive pas.
Oui, ouais, c'est ça, la
exactement, voilà, qui vient se jouer trop facilement d'Ousmane Camara. Et derrière, c'est dommage parce qu'Anthony Lopez est sur le ballon quand même, il arrive à le toucher, il l'effleure, mais malheureusement pas assez, et ça finit dans, au fond des buts angevin. Mais c'est bien joué de la part d'Auxerre, ça montre aussi un petit peu, hein, l'aspect mental, l'abnégation, le jusqu'au boutisme de cette équipe, voilà, qui ne s'avoue pas vaincue. C'est jamais facile d'être mené au score, et voilà, la manière dont ils viennent de réagir, même je trouve dans l'utilisation du ballon. Je les trouve intéressants, ces Auxerrois. Hein. Will Steele, un entraîneur que je suis pas archi fan, excusez-moi, hein, d'être pas forcément super positif sur cet entraîneur. Je vais lui laisser du temps. Mais il est en train de me montrer, et surtout en train de me faire mentir, parce que ce que je viens de voir, que ce soit contre le Racing Club de Lens, où j'avais trouvé son équipe quand même protagoniste, et sur les 35 premières minutes de ce match contre Angers, je les trouve pas mal. Et je les trouve... même meilleur que l'année dernière. On sait encore très tôt, Karine.
Ah bah, alors,
c'est du temps. Non, non, mais
ah
oui. Bon, tu sais, t'as déjà une première, un premier a priori.
T'as ce ressenti.
Et je le trouve plutôt positif.
Mais Fred, on va vivre avec toi le corner, parce que dans la foulée, Angers a essayé de réagir. Corner angevin.
Ah oui, c'est vrai qu'on vit 36 premières minutes sympathiques, hein, vraiment, on voit des belles choses avec le corner, le ballon qui s'élève, une tête au serroise pour une aide d'Angers, oh là, ça va être dégagé, ouais, finalement, voilà, par là, la défense au serroise, non, finalement, c'est récupéré, peut-être la contre-attaque, ah, c'est récupéré par les angevins, hein, ça va d'une équipe à l'autre, pied fort pour tranquillement relancer, plat du pied, la contre-attaque au serroise, le ballon décalé sur le côté droit, avec Danois, oh, la parade, oh, la parade de Lopez. Ah, c'est pas bien vu, hein, de la part de Namasso. Il me semble que c'est Namasso. Mais par contre, Lopez était parfaitement sorti pour fermer l'angle. Il s'est jeté un petit peu de réussite. Il capte ce ballon en deux temps. On était tout près du deuxième but au Serrois. Quelle belle contre-attaque, et surtout quelle belle intervention de Lopez.
Je pense que faire bien mieux, non?
Mais je pense que c'est la Bolascari pour le coup, hein, qui se retrouve dans une position face au gardien d'Angers, Lopez. Alors Lopez qui fait encore un super barré. Il y a une très belle passe, hein, juste avant aussi, de Kevin Danois, hein, qui arrive à trouver son attaquant entre les jambes du défenseur angevin. Et un peu à l'instar du premier but, hein, ça va très très vite vers l'avant, hein, côté Auxerrois. Ils optimisent un maximum les contre-attaques, les transitions offensives, avec un jeu qui est vraiment très vertical, très porté vers l'avant. Honnêtement, bravo, bravo les joueurs d'Auxerre, parce que ce qu'on est en train de voir, c'est plus que plaisant.
On se régale avec les deux équipes qui sont effectivement très offensives. On retourne voir David Filippo. Est-ce que Lorient réagit après avoir le deuxième but pour 3?
Le deuxième but troyen, il est magnifique ce but, et ça fait 2 après 38 minutes de jeu. Alors je suis en train d'essayer de voir qui a ouvert le score. C'est pas le petit Picard, vous allez me dire ça. Et c'est vrai que j'étais en train de regarder les statistiques, j'ai pas bien vu le but marqué par les Stacks. Ça m'a un petit peu surpris, mais ça fait 2-0. Ils prennent un sacré coup derrière la tête.
C'est Lucas Marronnier
qui marque effectivement. Il est sur une action qui se déroule sur le côté gauche, le centre venu de la gauche, et au deuxième poteau, eh bien, le latéral droit qui reprend du pied gauche et qui marque, qui trompe Mvogo. Il était absolument seul, Marronnier, et ça fait 2-0 pour les Stacks ici à Lorient. Et c'est vrai que depuis l'ouverture du score de Ripart sur pénalty à la 29e, il y a les Lorientais et on les voit quasiment plus. Ils ont clairement pris un coup derrière la tête. 2-0 pour les Stacks ici, c'est un peu la stupeur au moustoir. 2-0 pour les Stacks face à Lorient.
Maxime, bravo Marronnier, mais il est totalement oublié.
Ben c'est très très bien joué de sa part, parce que justement il continue son action, lui qui est arrière droit. Le ballon était sur le côté gauche, il me semble que c'est Hugo Picard, le joueur qui vient d'être transféré de la MLS vers la Auxerre, qui se retrouve vers les Stacks, pardon, qui se retrouve à centrer. Derrière, elle doit être touchée et déviée peut-être par Ripart. Je n'arrive pas à voir qui dévie le ballon, et c'est justement Lucas Marronnier, l'arrière droit, qui a suivi son action. Tu sais, on parle de plus en plus de latéraux offensifs, Karine, et voilà, là il le prouve qu'aujourd'hui c'est important de mettre du nombre, de la densité dans les défenses adverses. C'est exactement ce qu'il a fait. Il se retrouve dans cette position et il vient marquer le deuxième but. C'est très très bien joué de la part de l'Estac de Troyes, vraiment, qui se met dans une position plus que favorable pour aller chercher les 3 points ce soir.
Superbe, on a déjà 6 buts dans ce multiplex de Ligue 1. On va aller à Lyon face au Havre. Jérémy Donzé, les Lyonnais qui sont toujours à l'attaque mais qui ont un problème d'efficacité.
Oui, pour l'instant, ça ne veut pas sourire pour les hommes de Paulo Fonseca. On n'a pas de but ici, on a pas mal d'occasions. Il y a un petit temps mort quand même dans cette partie. C'est très tactique, hein, entre les hommes de Paulo de Fonseca et ceux de Didier Digard. Il y a deux blocs qui s'affrontent là, après 40 minutes de jeu, toujours 0-0 donc. Et on voit un peu les Lyonnais qui essayent de repartir propre de derrière. On a des Havrais très très bien en place jusqu'à présent, qui ne se livrent pas, qui piquent simplement quand ils récupèrent le ballon. Et du coup, côté lyonnais, on a du mal, notamment dans les dernières passes. On va suivre quand même cette passe en profondeur justement de Loïs Openda, mais elle est mal ajustée pour Ernest Nuama. Et Maxime, peut-être côté lyonnais, l'une des satisfactions, on avait souligné le manque un petit peu d'allant du milieu de terrain mercredi face au Fenerbahçe. Mats Bitstrup, qui n'était pas titulaire, qui fait son apparition dans le 11 de départ de Paulo Fonseca, c'est peut-être le milieu de terrain le plus remuant, même si tout n'est pas parfait. Bah c'est lui peut-être le plus en vue dans les trois, avec Tyler Morton et Corentin Tolisso.
Ouais, c'est peut-être aussi lui qui a le plus physiquement, en tout cas été le moins impacté, hein. Il a un peu moins joué, on l'avait vu intéressant sur contre Toulouse, me semble-t-il, où est-ce que Fonseca avait décidé de faire tourner son 11 complet. Et donc Bitstrup avait joué, a fait d'ailleurs un très bon match. Il avait été bon aussi lorsqu'il était rentré contre le Fenerbahçe. Voilà, beaucoup critiqué un petit peu Tesman. Fonseca a entre guillemets écouté un petit peu l'opinion publique. Il a décidé de titulariser Bitstrup, qui, ma foi, je suis entièrement d'accord avec toi, est intéressant, notamment dans l'aspect physique, parce que c'est vrai qu'il met beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact, et ça permet aussi de décharger un petit peu Tolisso et Morton de l'aspect défensif. Donc ouais, c'est un choix gagnant pour l'instant de Fonseca, même si les Lyonnais n'ont pas encore trouvé la faille, parce que je le trouve intéressant comme joueur en effet.
La 41e donc au Groupama Stadium, 0-0 donc, toujours entre Lyon et Le Havre.
On va voir Xavier Grimaud, Brest-Toulouse, toujours un score de parité, un but partout.
Oui, toujours un partout. Il reste 3 minutes 30 avant la mi-temps. Le but de Rossellero pour Toulouse, le but de l'égalisation de Doumbia. Et le match est quand même très équilibré, hein. Maintenant, il n'y a pas eu de gros arrêts à faire pour Guillaume Rest, ni pour Selvic, le gardien breton. Et à noter, à la 29e minute, la banderole sortie par le parquage toulousain.
J'ai cru qu'il y avait but, mais le problème c'est qu'il y a eu de la casse dans la surface de réparation. Angevin, jeu de billard, ça rebondit dans tous les sens. Finalement, un Angevin est au sol et l'arbitre a décidé d'arrêter la partie. Faute ou pas faute, en tous les cas, il n'y aura pas but. Il y a toujours un but partout entre Auxerre et Angers.
Fred Joly, effectivement, on revoit l'action.
Oh là là.
Oh là là, mais c'est.
Oh, le coup de billard,
c'est quelque chose. Le coup de billard, c'est. Oui. Alors finalement, il y a effectivement le ballon qui finit au fond des filets, mais c'est logique pour toi que l'arbitre ait sifflé et qu'il y ait faute, Maxime ?
Oui, il y a peut-être une petite faute de Le Gros, me semble-t-il. Alors juste avant, il y avait un craquage complet hein, de Camara qui s'était loupé et qui finalement arrive en catastrophe à contrer l'attaquant auxerrois. Et puis derrière, ouais, avec un coup de billard, et il me semble que c'est Namazo. Hein. C'est Namazo qui doit se retrouver dans une situation où est-ce qu'il termine à quoi 2-3 mètres d'Anthony Lopez.
Alors il y a pas de but,
mais visiblement
hein.
L'arbitre est en train de checker.
Attention.
Parce que c'est pas archi flagrant hein, oui. La faute. Hein.
Ah, il y a VAR. Alors non, mais s'il fait VAR, c'est sans doute pour voir si le but est validé ou pas, ou s'il y a vraiment faute.
Oui, je pense, hein, c'est ça.
Donc voilà. Parce que s'il y a faute, alors je sais pas.
Ou une faute qui pourrait amener un penalty, je sais pas.
Le Gros, non, pénalty peut-être pas, mais c'est vrai que Le Gros commet une faute sur Kalulu. Alors il prend le pied. Alors est-ce que le défenseur Angevin en rajoute? Et c'est peut-être pour ça qu'on fait appel à la VAR, ou est-ce que ça, apparemment, non, ça va repartir. C'était juste une petite vérification pour vérifier que les écrans étaient bien allumés.
Ouais, c'est limite, hein. C'est limite. Hein. Je suis pas convaincu que tous les arbitres auraient sifflé la faute. Bon, bah écoute, ça tombe bien pour Angers. Ouais.
Attends, ça discute encore.
Ah, oui, parce qu'on voit effectivement l'arbitre qui écoute au niveau de la VAR. Kalulu, lui, est sorti du terrain parce qu'il était touché. Et est-ce que le but va être validé
Anthony
ou pas?
Anthony Lopez a l'air sûr de lui. Il a récupéré le ballon. Il a posé le ballon.
Ça s'appelle de l'intox, ça. Ça s'appelle de la vraie intox.
Il faut pas que le but soit validé.
Il est là. Bon, j'y vais, les gars. Moi, je joue.
C'est l'expérience de l'ancien
Lyonnais. Il est en train d'essayer d'endormir. Voilà, finalement. Ouais, c'est bien, monsieur l'arbitre, vous avez raison, vous êtes le meilleur. Lopez, il est content. En tous les cas, il va avoir un renvoi. On a décidé qu'il y avait au final une faute sur Kalulu. Et le score est toujours d'un but partout entre Auxerre et Angers à une minute de la pause.
C'est limite. Hein. C'est limite.
Et évidemment, Will Steele n'est pas d'accord.
Bah, oui, bien évidemment. Ouais.
En tout cas, c'était brouillon, mais le but est bien annulé. On reste sur un but partout entre la GIA et le SCO Angers. On retourne à Lyon. Jérémy Donzé, Lyon face au HAC 0-0.
Avec Noama dans la surface de réparation. Est-ce qu'il y aura un pénalty? Non, le centre pour Loïs Openda. Il y a eu un gros duel avec Ayou Mousseko. Et finalement, François Le Texier n'indique pas le point de pénalty. Ballon récupéré par Corentin Tolisso à 30 mètres. La frappe, elle est captée finalement par Lionel Mpassi qui se couche bien sur ce ballon. 20 secondes à jouer encore dans le temps réglementaire de cette première période. Et les Lyonnais qui se remontent à nouveau dans le jeu. Il y avait eu deux énormes occasions. D'abord pour Openda et Tolisso, puis pour Kayil Boulage qui avait trouvé le poteau sur un centre contré. Ça, c'était dans le premier quart d'heure, mais depuis, il n'y avait pas eu d'énormes situations pour les hommes de Paulo Fonseca. Et là, il y a cette situation, ce centre d'Ernest Noma. Loïs Openda un petit peu court devant Ayou Mousseko.
Ouais, je disais intéressant cette situation, hein, parce que Seko qui est en retard sur le centre de Noma, et il y a donc l'attaquant lyonnais Openda qui est devant lui. Et il le voit justement qu'il ne va pas pouvoir avoir le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue le corps, en fait. Il pousse un petit peu l'attaquant belge, et ça permet de déséquilibrer, mais il ne le pousse pas assez suffisamment pour qu'on puisse siffler pénalty. On voit aussi l'expérience de ce joueur hein, et l'importance dans le collectif de Didier Ligard. C'est très très bien joué de sa part.
On est juste à la limite. Il reste 30 secondes à jouer dans le temps additionnel, pardon, cette première période.
Oui, Fred, tu nous as appelé.
Ouais, je voulais juste vous dire qu'apparemment, la VAR n'était pas pour l'histoire de la faute du défenseur Le Gros, mais était pour une main angevine dans la surface de réparation. On a revu les images et Will Steele a montré d'ailleurs le bras comme ça à l'arbitre de la rencontre. Là, c'était plutôt du côté des Auxerrois. On réclamait sans doute un pénalty pour une main. C'était plutôt ça, et pour cette raison qu'on avait fait appel à la VAR.
Très bien. Bon, en tout cas, ils n'ont rien eu.
Exactement.
Voilà. On retourne à Brest. Brest-Toulouse, c'est toujours aussi plaisant. Il y a eu. Là, il y avait une belle
fortune. C'était chaud, Je ne sais pas s'il fait le bon choix, Del Castillo. Je ne sais pas s'il fait le bon choix. Il est lancé sur le côté droit. Il profite de la glissade de taper et il est dans la surface de réparation. Il essaye de centrer au deuxième. C'est compliqué. Peut-être qu'il aurait dû fixer, essayer de frapper. Il a tenté peut-être pas la solution la plus simple. Il y a eu une autre situation pour les Brestois il y a quelques minutes avec une perte de balle à 20 mètres. Par les Toulousains et le 1-2 entre Doumbia et Bradley Loco qui crochette le gardien dans un angle fermé et qui peut frapper, mais c'est repoussé par la défense toulousaine. Ouais, c'est une première mi-temps très agréable. J'avais juste pas eu le temps de vous finir la banderole des Parcages toulousains en hommage à Eric Roy, sorti c'est assez classe de leur part, et tout le stade Francis Leblay s'est levé et a entonné le fameux chant en l'honneur de King Eric. Le temps additionnel, il reste 2 minutes encore à jouer, un partout entre Brest et Toulouse.
Et bravo Toulousain, t'as raison de le dire, effectivement, les supporters extrêmement classe qui ont rendu hommage à l'ancien entraîneur de Brest. C'est la pause à Lyon, Jérémy Donzé.
Allez, ce score de 0 à 0 donc, score nul et vierge ici à Lyon, à Décines, des occasions côté lyonnais notamment, on en parlait dans le premier quart d'heure, un poteau notamment de Kyle Boulash sur un centre dévié sur son poteau par Lionel Mpassi après une déviation d'un défenseur. Il y a eu des occasions aussi côté Avray par Assoulen Ndiaye, notamment le capitaine normand, et un gros bloc Avray qui gêne pour l'instant la progression des hommes de Paulo Fonseca. 0 à 0, tout reste à faire pour Lyon face au Havre.
Merci beaucoup la mi-temps, mouchoir David Philippot.
Ouais, c'est la mi-temps. 2-0 pour l'Estac face à Lorient. Des buts signés Ripard, 29e sur penalty, et Lucas Marronnier, 38e.
Merci beaucoup. Ça joue à la Baie des Champs, Fred.
Oui, il reste une minute à jouer sur les 4 minutes de temps additionnel, un partout entre Auxerre et Angers, avec cette ouverture du score superbe hein, de plus de 20 mètres de Van den Boomen, l'égalisation de Labolascari pour sa première apparition sous les couleurs auxerroises. Il n'avait pas joué à Lens, c'était un accord entre les deux clubs. Là il a marqué et ensuite il est venu buter pour une seconde occasion sur Lopez. Ça frappe un petit peu mollasson et surtout un gardien angevin qui avait réalisé une sortie quasi parfaite. Il reste 30 secondes. On a joué sur les 4 minutes de temps additionnel. La touche, elle est pour Angers. Il n'y a plus que moi ou pas, Karine?
Non, il n'y a pas que toi.
Ah bon, il n'y a pas que moi. Bon, bah, je peux laisser la place alors, du coup.
On va aller voir Xavier.
Je ne vais pas monopoliser le micro. Hein.
Brest-Toulouse-Saint-Loup.
Ça joue la transversale trouvée par Camori Doumbia sur un centre de Romain Del Castillo. C'est le plus petit de l'équipe et c'est lui qui a pris le ballon de la tête. Ah, c'est clair, et ça retombe sur le haut de la transversale de Guillaume Rest. Il y a eu quand même 3 situations dangereuses hein, pour les Bretons dans les 5 dernières minutes. Il reste quoi? Allez, 10 secondes. Je vais me permettre de les garder, tiens, Fred, avec le débordement, peut-être de taper sur le côté gauche pour Toulouse. Voilà, c'est la mi-temps sifflée par Monsieur Brizard. Un partout donc entre Brest et Toulouse. Russell Rowe ouvert le score pour le TFC, l'égalisation de Doumbia pour Brest.
Merci beaucoup, et c'est la pause également chez toi. Donc, Fred, à la Baie des Champs, il y a un score de parité.
Exactement, la pause, un partout. Angers a ouvert le score avec Van den Boomen, cette superbe frappe à 20 mètres, plus de 20 mètres. L'égalisation de Labolascari pour la Auxerre, un partout entre Auxerre et Angers.
Merci beaucoup, on s'est régalé dans cette première période des matchs du multiplex. Comptant pour la deuxième journée, on va aller voir Pierre-Yves Leroux, le point Ligue 2 entre Guingamp et Nantes.
Eh bien écoute, on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Deux partout entre les deux équipes, le doublé de Younoussa pour les Nantais alors qu'ils étaient menés 2-0 sur des buts de Ben Brahim et Gomis. Et ce sont plutôt les Nantais qui poussent, qui étaient pas loin d'arracher la victoire il y a quelques instants encore. Ils ont des occasions et pour l'instant on est toujours à deux partout dans le dernier quart d'heure.
Merci beaucoup, direction le sud avec le trophée des champions en hand. Maxime Kiliev, le PSG face à Montpellier.
Mais le PSG va mieux, le PSG qui était mené de 5 points lors de la première période, et bien les Parisiens ont fait leur retard et sont passés devant. Ils mènent désormais de 2 points à quasi 4 minutes de la fin, 20-18 face au Montpellierin. Le Paris Saint-Germain qui a un léger, très léger matelas de confort et d'avance pour envisager remporter pour la première fois ce trophée des champions qui lui échappe depuis 2023. 4 minutes à jouer, 20-18 en faveur de Paris face à Montpellier.
Magnifique cette musique derrière, très très. Merci beaucoup Maxime.